Audiolib présente Dieu n'habite pas la Havane de Yasmina Kadra, lu par Bernard Gabet. En vain sur une herbe, elle essaie de se poser, lourde libellule. Le moine errant Bachot, 1644-1694. Chapitre 1. Qui rêve trop oublie de vivre, disait Panchito. J'incarne mon propre rêve. Pourtant, je croque la vie à pleines dents, sans en perdre une miette. Je cherche toujours le bon côté des choses, car elles en ont forcément un. Je vois le verre à moitié plein, une forme de sourire par-dessus la grimace, et la colère comme un enthousiasme dénaturé. Le monde n'est pas obligé d'être parfait, mais il nous appartient de lui trouver un sens qui nous aidera à accéder à une part de bonheur. Il y a immanquablement une issue à n'importe quelle mauvaise passe. Il suffit d'y croire. Moi, j'y crois. Mon optimisme, je le cultive dans mon jardin potager. Je me suis éveillé à la joie de vivre dès l'âge de 5 ans. Quant aux années qui précèdent, je ne m'en souviens pas, je suis certain qu'elles furent formidables, puisque mes parents l'étaient. Ma mère était choriste. À Trinidad, sa ville natale, on la surnommait la sirène rousse. Elle était un ravissement, avec sa peau de nourrisson, ses cheveux flamboyants qui cascadaient jusqu'à ses fesses et ses yeux verts brillants comme des émeraudes. Lorsque mon père l'entendit chanter pour la première fois, il fut conquis corps et âme. Il l'épousa dans la foulée. Leurs noces se réinventaient chaque soir. Leurs étreintes les scellaient. Il leur suffisait de se regarder pour que les aurores boréales se substituent à leurs prunelles. Rarement amour aura été aussi fort. C'était l'amour des gens simples qui, se sachant faits l'un pour l'autre, deviennent à eux seuls le monde. Mon père était un grand et beau mulâtre, prodigieux fruit du croisement improbable d'un aristocrate lituanien en exil et d'une enfant d'esclave affranchie. Il avait hérité de l'un les bonnes manières et de l'autre l'endurance. Avec son vieux costume repassé méticuleusement, son chapeau ras des sourcils et ses souliers cirés de frais, il aurait pu passer pour un prince de la nuit. Quand bien même il ne parvenait pas à joindre les deux bouts, il ne nous refusait pas grand-chose, à ma sœur aînée et à moi. Il disait « Être pauvre, ce n'est pas manquer d'argent. Être pauvre, c'est manquer de générosité. » Il aurait donné sa dernière chemise au premier venu. Le jour, il vivotait de petits boulots, le soir, il trimait occasionnellement dans un bastringue pour un salaire de misère, avant de décrocher un emploi comme chauffeur de maître. Il avait conduit Lucky Luciano, qui possédait un hôtel sur le front de mer, puis un dénommé Brutus, l'une des plus grosses fortunes de Cuba, forcée de déserter l'île au lendemain de la chute de Fulgencio Batista. Lorsque la révolution éclata, mon père se planqua à la maison durant des mois. Non par peur, mais par principe. Pour lui, se sacrifier était la plus grande injustice que l'on puisse s'infliger. Mourir pour un idéal, arguait-il, c'est confier cet idéal aux usurpateurs. Les orphelins auront beau le réclamer, personne ne le leur rendra. Mon père ne croyait pas dans les idéologies qui relèvent plus de l'élevage que du lavage de cerveau, ni dans les révolutions qui se contentent d'inverser les tyrannies au lieu de les renverser, ni dans les guerres aux mémoires courtes qui font croire qu'il y a des causes plus précieuses que l'existence, ce qui le révoltait par-dessus tout. Il aimait la vie, avec ses hauts et ses bas, ses miracles et ses imperfections, ses kermesses et ses minutes de silence. Mon père était capable de composer un songe à partir d'une volute de fumée. Il profitait de chaque fête comme si c'était la dernière, persuadé que nos rares mérites sont les moments de joie partagés avec les êtres que nous chérissons et en dehors desquels le reste n'est que concession. C'est lui qui m'a appris à faire d'un sandwich un festin. C'est encore lui qui m'a certifié